Chapitre 8. Le lendemain soir, Clémence attendait avec une vive impatience l'arrivée de Sir Georges, et cependant, quand il entra, elle ne l'interrogea pas tout de suite, et la conversation avait roulé sur tout autre sujet pendant assez longtemps, sans que Sir Georges abordât la question que Clémence brûlait de lui adresser. « Avez-vous fait ma commission ? » dit-elle enfin. « Laquelle ? » demanda Sir Georges, avec un étonnement qui n'était pas joué. « Auriez-vous oublié notre conversation d'hier ?»« Ah, j'y suis. Non, madame, je n'ai rien oublié. J'ai tenu fidèlement ma promesse. »« Eh bien ?» demanda anxieusement Clémence. « Eh bien, j'ai fait l'aumône de ma propre main. Mais franchement, Clémence, dussiez-vous me croire damnée, le seul sentiment que j'ai éprouvé est un sentiment de dégoût. C'était un pauvre fort sale et affreusement laid. Pour vous obéir, j'ai glissé une once d'or dans son immonde main et, par-dessus le marché, je lui ai fait cadeau des gants qu'il avait touchés. Il n'aura pas manqué, je suppose, d'aller ensuite se griser à ma santé. » Clémence baissa la tête et deux larmes perlèrent dans ses yeux. Sir Georges les vit. « Qu'avez-vous ? » s'écria-t-il. « Rien, » répondit Clémence en essayant de sourire. « Oh, dit Sir Georges, quand vous souriez ainsi, vous êtes un ange de lumière. Oh, Clémence, il ne vous manque que le souffle de l'amour pour atteindre à l'idéal de la femme. Pourquoi ne m'aimez-vous pas ?»« Aimer, répliqua-t-elle, suffit-il donc d'ouvrir son cœur à l'amour sans savoir où il vous conduira ?»« Vous autres Espagnols, dit Sir Georges, qui devina les graves pensées de Clémence, vous vous faites une singulière idée de l'amour. Vous en faites un esclave, et c'est un génie qui perdrait son éclat du moment où il subirait le joug du devoir. L'amour est un enfant indépendant, fantasque et capricieux. Il cesse d'exister dès qu'on veut l'enchaîner. « Je ne vous aurais pas cru, répliqua froidement Clémence, capable de partager des idées aussi étroites et aussi vulgaires. Grâce à Dieu, le temps des donjons est passé. » Et nous avons aujourd'hui en Espagne une trop haute idée de l'amour pour le regarder comme le fils du caprice et le père de l'inconstance. Chez nous, Sir Georges, l'amour ne marche que sous l'escorte du devoir qui lui prête toute sa dignité. On voit que vous avez été élevé dans un couvent, répliqua Sir Georges de son ton le plus sarcastique. Parce que je plaide pour le véritable amour, répartit Clémence avec son plus bienveillant sourire. « Votre plaidoyer dépose en faveur de votre esprit et de votre aimable candeur. »« La candeur, répliqua Clémence, est sœur de l'innocence. »« Et vous les abritez toutes les deux dans votre cœur. » Clémence sourit du compliment et ne répondit rien. « Clémence, reprit Sir Georges enthousiasmé, vous êtes irrésistible et si vous y consentez, je ferai de vous le modèle des ladies. »« Qu'entendez-vous par là ? » Que je vous offre ma main et ma fortune. Quant à mon cœur, vous le possédez déjà tout entier. Mais comme vous ne consentiriez à me donner le vôtre que devant un autel, je vous y conduirai. Et c'est le seul motif qui vous décide, dit Clémence, vivement blessée, mais dissimulant son chagrin. Et maintenant, ajouta Sir Georges, j'espère que vous n'hésiterez plus à faire mon bonheur. Serais-je bien sûre de faire le mien ? « Peut-être en seriez-vous plus assuré en épousant le vicomte ?» répliqua Sir Georges d'un ton de hauteur mal dissimulé. « Me trompais-je en vous croyant sincère ? L'instinct de la coquetterie est si puissant chez une femme. » « Le vicomte eut-il de l'amour pour moi ? Je sens que je ne serai pas heureuse avec lui. » « Ni avec moi non plus. Vous êtes donc insensible à l'amour, madame. » Et cependant, avec tant de charme, ne pas aimer, c'est manquer à votre vocation. Je n'ai pas dit cela, Sir Georges. Ce que je pense, c'est que si nous unissions nos sorts, je n'aurai qu'un bonheur idéal et un malheur réel. Qui peut vous inspirer une aussi funeste pensée, Clémence ? Je redoute aussi peu, moi, le malheur à vos côtés que l'obscurité sous les rayons du soleil. Hâtons-nous donc de nous unir. Le bonheur en amour est chose trop éphémère pour perdre en discussion un seul des jours qu'il nous promet. Vous croyez donc que l'amour est éphémère et qu'il a une fin ? Un écolier seul pourrait soutenir le contraire, Clémence. L'amour, le sentiment le moins durable, est précisément celui qui affecte les plus grandes prétentions à l'immortalité. Mais des amants vulgaires peuvent seuls se jurer un amour éternel. Cette éternité n'est qu'une absurde utopie. Si l'amour, répliqua Clémentia, n'est, ainsi que vous venez de le dire, qu'un château de cartes sur lequel il suffit de souffler pour le renverser, que deviendra le bonheur que vous rêvez auprès de moi quand vous ne m'aimerez plus ? Quand je ne vous aimerai plus, répondit Sir George d'un ton léger, vous m'amuserez par cette grâce, cet esprit, cette originalité qui vous sont propres et vous donnent le privilège de me surprendre et de m'intéresser toujours. Et mes vertus, si tant est que j'en possède quelques-unes, vous ne les faites pas entrer en ligne de compte ? Les vertus, ce genre de mérite appartient à un autre ordre de programme, répondit Sir George. Certainement, je les respecte fort, mais j'espère que vous voudrez bien modifier un peu les vôtres à mon intention. Il y a certaines vertus, par trop intolérantes, qui donnent dans le monde un cachet de ridicule, et nous aurons conséquemment à faire, ma chère Lady Percy, quelques réformes dans le budget des vertus. Parmi ces vertus à réformer, je suppose que vous inscrivez la fidélité au premier rang. Une reine de la mode n'a-t-elle pas fait graver cette devise sur son cachet ? Tout passe, tout casse, tout lasse. La vie réelle ne doit être, suivant moi, ni une idylle pastorale, ni une sainte légende. Il faut se conformer aux idées du monde parmi lequel nous vivrons. Quel monde ? Le monde de Paris et de Londres, unique théâtre sur lequel vous serez apprécié à votre juste valeur. Vous ne voulez sans doute pas végéter toujours à ces villes où l'on ne peut même pas vous comprendre. Si l'on ne me comprend pas, du moins l'on m'aime, ce qui est bien préférable, s'écria Clémence. Quand mon oncle l'abbé, dont la mémoire me sera toujours chère, se plaisait à semer dans mon esprit les graines de quelques fleurs qui s'y sont développées, ce n'était pas pour que je fisse un vain étalage de ceux que je pouvais savoir. « Quoique caché, disait-il, le parfum de ces fleurs ne sera pas moins suave. »« Vous vous trompez, Sir George, si vous pensez que je végète ici. »« Oh non, je vis par l'âme, par le cœur, je vis par tout ce qui m'entoure. »« Appelleriez-vous par hasard la vie, le bruit, le fracas, la vanité du monde ?»« Mais alors, pourquoi le fuyez-vous ?» La vie sera pour moi, Clémence, le bonheur de vous voir placée au milieu du cercle qui vous convient et dont vous serez le plus bel ornement, de vous voir entourée des hommes les plus illustres qui mettront à vos pieds l'hommage de leur respect et de leurs intelligences supérieures. Je n'aspire pas à cette vie, Sir George, et je vous assure que, dans un tel milieu, je me trouverai fort mal à mon aise. Je préfère 100 fois une existence calme à une vie agitée, l'amitié et l'admiration et la nature au monde. Peut-être aimeriez-vous mieux, dit Sir George d'un ton de dépit, aller filer le parfait amour et arroser les fleurs de lys à la fidélité avec le vicomte dans son château de Belmont. Cessez cette plaisanterie, Sir George, je vous ai déjà dit le contraire, et douter de ma véracité, c'est douter de moi-même. À ce moment, on frappa à la porte d'une manière particulière qui était celle du vicomte. « Encore cet homme !» exclama Sir George exaspéré. « A-t-il donc juré de venir nous importuner sans cesse ? Il faut lui faire comprendre, Clémence, d'une manière ou d'une autre, que sa présence vous est aussi importune qu'à moi-même. Faites dire que vous ne recevez pas. »« Y pensez-vous ? La chose est impossible. » »« Choisissez entre lui et moi. » s'écria Sir George, emporté par son orgueil britannique. « Mon choix est fait, Sir George, » répliqua Clémence d'un ton de dignité blessée. Les pas du vicomte se firent entendre dans l'antichambre. « Je vous préviens, Clémence, » dit Sir George hors de lui, « que je ne souffre pas de rivaux. »« Ni moi de despote, » répondit Clémence d'une voix ferme. « Après ce qui venait de se passer entre nous, madame, je croyais avoir le droit de me montrer exigeant. »« Il ne s'est rien passé, monsieur, qui autorise vos exigences. »« Vous me congédiez ? C'est vous qui voulez partir, je ne vous renvoie pas. »« À ce moment, le vicomte entrait et salua Clémence. Avez-vous des commissions pour Cadix ? Dit Sir Georges de sa voix la plus douce, avec son sourire le plus gracieux, en prenant son chapeau. Clémence, incapable de dissimuler son émotion, devint pâle et sentit son cœur se briser. Elle s'efforça néanmoins de faire bonne contenance pour répondre. « Eh, quoi ? Partez-vous donc ? » « J'y suis forcée, madame. »« Eh bien, alors ? Bon voyage, milord. Reviendrez-vous bientôt ?»« Cela ne dépend pas de moi, madame, » répondit l'orgueilleuse insulaire. Et, saluant Clémence avec froideur et le vicomte d'un air hautain, il sortit.